Alors, vous pouvez tourner avec moi dans le livre des Actes, s'il vous plaît, chapitre 14. Je voulais mentionner aussi deux petites choses avant de commencer, avant d'aller dans un mot de prière. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de feu. Il y a eu deux feux importants à Longueuil cette semaine. Et notre sœur Nathalie Roy, je vais m'excuser déjà de la désigner comme ça, d'accord, mais c'est la jeune femme qui est là dans un fauteuil roulant habituellement. Maintenant, je le mentionne parce que ça complique les choses pour elle. C'est son immeuble. Un des deux feux, c'était son immeuble qui a passé au feu. Et donc, on vous demanderait de prier pour elle. Elle n'a pas été blessée, mais et c'est pas son étage qui a passé au feu, mais le feu était majeur dans l'immeuble. Donc, c'est beaucoup de complications pour elle. Vu son état physique, en plus, ça, déjà, pour n'importe lequel d'entre nous, ce serait déjà très compliqué. Mais elle est relocalisée. Alors, si vous voulez prier pour Nathalie... Et s'il y a des personnes qui auraient à cœur de donner un coup de pouce, pour l'instant, c'est des petites choses, des commissions, des trucs à faire pour elle. Sa mobilité est d'autant réduite qu'à ma connaissance, son fauteuil est encore dans l'appartement. Là. Elle a été sortie, transportée, ça va. Donc, rien, aucune ressource à sa disposition. Sa famille est en train d'aider. Et éventuellement, peut-être, ça, dépendamment si c'est les assurances qui font tout, il y aura peut-être un travail à faire aussi et on vous en reparlera. Mais si vous voulez prier pour Nathalie Roy et s'il y a une ou deux personnes qui auraient à cœur de donner un coup de pouce, venez me voir après. Et puis, c'est pas mal moi le contact avec Nathalie. On coordonnera à ce moment-là pour lui donner un coup de main. Je vous mentionne aussi le projet pour lequel on contribue au niveau de l'offrande, l'action de grâce, le projet du bâtiment de Sembec, c'est un des trois objectifs à travers l'offrande. Donc le bâtiment, les travaux vont bon cours là-bas, mais il y a un appel à l'aide parce que dans les échéanciers qui se sont donnés, les entrepreneurs qu'ils ont embauchés ne suffisent pas à la tâche. Évidemment, en ayant des bénévoles, ils réduisent des coûts. Et donc, ils ont envoyé un appel à l'aide hier pour demander, ils aimeraient avoir 5 hommes, 5 jours par semaine, donc ce n'est pas les mêmes hommes, évidemment, mais l'équivalent de 5 hommes à tous les jours jusqu'à la fin du projet, simplement pour pouvoir entourer le travail, faire du nettoyage, des retouches, des trucs plus simples comme travaux. Et ils cherchent aussi des tireurs de joints. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez laisser votre nom au kiosque d'informations, ça nous sera communiqué, et on va vous mettre en contact avec les responsables à l'association. Vous êtes avec moi dans Actes 14. Les versets 20 à 25, avant de dire un mot de prière. 20b, si vous trouvez le B. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque ville et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent en Attalie. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Seigneur, le livre des Actes rafraîchit ma foi. Rafraîchis ma vision de toi, Seigneur. Ça me fait du bien d'être dans ce livre, tellement dynamique, tellement centré sur l'essentiel de la foi, Seigneur. Ça fait du bien à mon âme et je te prie de venir nous rencontrer ce matin, de venir nous parler à travers ce court passage, Seigneur, qui est important pour comprendre l'Église, qui est important pour comprendre ta stratégie, Seigneur, pour faire des disciples et atteindre le monde. Je te prie, Père, de parler à nos cœurs, de nous éclairer. Viens rejoindre chaque personne dans cette salle, Seigneur. C'est simplement par l'œuvre de ton esprit que ce court passage et mes paroles peuvent venir s'appliquer dans chacune de nos vies d'une manière personnelle. Alors, je te prie, Père, viens convaincre. Viens convaincre. Et s'il y a nécessité de se repentir, viens convaincre de péché, Seigneur. Viens convaincre de foi, Seigneur. Viens donner la foi. Viens nous conduire dans cette marche d'obéissance à la lumière de ta parole. Et pour ceux et celles au milieu de nous qui ne te connaissent pas personnellement, Seigneur Jésus, viens leur parler de la vie d'un disciple de Christ, de cette vie exaltante et merveilleuse ce matin. Je prie d'être avec moi, avec ma bouche, Seigneur. Garde mon cœur. Conduis-moi. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Des questions pour vous ce matin. Qu'est-ce que ça prend pour grandir dans la foi? Qu'est-ce que ça te prend pour grandir dans ta foi? Est-ce que ça te prend un super preacher? Tu sais, un orateur, vous pouvez aller voir ailleurs tout de suite, un orateur, comme on dit au Québec, ça coche. Est-ce que ça te prend un super band de louanges? Tu sais, il manquait des trompettes un matin avec David. Il manquait des trompettes. S'il y avait des trompettes, peut-être que mon cœur serait allé ailleurs. Est-ce que ça te prend un super band de louanges pour pouvoir grandir dans ta vie chrétienne? Est-ce que ça te prend une église qui offre tous les ministères de soutien avec tes besoins particuliers? Parce qu'on a tous des besoins particuliers, c'est vrai. Et donc, c'est peut-être pas toujours à travers la prédication que tous les besoins vont être rencontrés, de toute évidence. Est-ce que ça te prend une église qui offre tous ces aspects-là? Je pense aux jeunes. Est-ce que ça te prend absolument un camp chrétien? C'est quand même bon, les camps chrétiens, non? Hein, les jeunes? Est-ce que ça te prend absolument un camp chrétien où tu trouves ta gang, puis les messages sont adaptés, puis tu peux t'amuser en même temps, tu vas passer du temps? Est-ce que ça te prend une super jeunesse pour avoir un sentiment d'appartenance à ton église, pour pouvoir grandir dans ta foi? Si je pose la même question un peu autrement, sous un autre angle, d'accord? Qu'est-ce que ça prend pour avoir un témoignage puissant dans une ville? Alors, je pars de l'individu, je me détache de toi comme personne, de vous comme individu, pour regarder au témoignage. Qu'est-ce que ça prend dans une ville pour avoir un témoignage puissant de l'Évangile dans une ville? Est-ce que ça prend une méga église qui est capable d'offrir tous les ministères possibles pour rejoindre toutes les catégories de personnes à l'intérieur de la société? Est-ce que ça prend une église qui est super organisée, qui est capable d'avoir toutes sortes d'approches différentes? Ce matin, on parle d'une super approche avec Jamais tout seul. Toutes sortes d'approches différentes pour aller atteindre les gens dans la communauté puis pouvoir les gagner à l'Évangile. Est-ce que ça prend des prédications en HD sur Internet pour pouvoir atteindre la ville? Maintenant, je ne voudrais pas être mal compris ce matin. Personnellement, je n'ai rien contre quoi que ce soit des choses que j'ai mentionnées. Je les trouve toutes bonnes, honnêtement. Et moi-même, je suis régulièrement, je suis un groupie de prédicateurs. J'écoute toutes sortes de prédicateurs que j'admire, qui m'inspirent, qui m'aident à aller plus loin. En voyez-vous, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre les camps chrétiens, j'ai rien contre tous ces aspects-là. J'ai rien contre toutes ces choses, mais en même temps, j'ai l'impression que parfois, on a besoin de s'arrêter pour se poser la question, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que c'est ça que ça me prend pour avancer dans ma vie chrétienne? Vous savez, à notre époque, la simplicité de la vie chrétienne, ce que c'est là dans ses fondements essentiels, la simplicité de la vie chrétienne, la simplicité de ce que c'est une église, on le perd facilement de vue. Parce qu'on vit à une époque où, pour fonctionner en classe, ça prend des iPads pour tous les élèves. Vous savez que j'aime les iPads. OK, j'ai rien contre les iPads. Mais ça prend ça pour pouvoir donner des cours. Et donc, on vit à une époque où, c'est comme ça prend un contexte, ça me prend ça. Là. Si j'ai tout ça, là, oh, je pense que je vais réussir ma vie. Je vais réussir ma vie chrétienne. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse revenir à quelque chose de plus essentiel, de fondamental, et c'est le livre des Actes qui va nous aider à le faire, à revenir à ces premiers moments où on voit une église qui est établie ici, on voit des notions de formation de disciples, qu'est-ce que c'est être un disciple, et revenir vraiment aux choses plus fondamentales, et m'assurer que celles-là sont présentes, que le tourbillon de toutes les autres choses qui peuvent être offertes ne viennent pas prendre la place des choses essentielles. Autrement, c'est du vent. Ça devient quelque chose de vide, c'est un rythme, c'est un style, c'est un style que je me donne sans substance, sans contenu dans ma foi. Mise en contexte, juste pour replacer un petit peu ce qui se passe ici, on est dans les voyages missionnaires de Paul et Barnabas, premier voyage, ils sont en déplacement constant, il ne reste que quelques semaines, voire quelques mois dans une ville, d'accord? Alors ça va très très vite, ils entrent dans une ville, annoncent la bonne nouvelle qu'un sauveur est venu pour les hommes, Jésus-Christ. Et puis, il y a un certain nombre de personnes. Dans le passage ici, malheureusement, je trouve que c'est mal rendu en français. Dans le passage ici, c'est beaucoup l'idée d'un grand nombre de personnes. Je dirais un nombre certain, si je tiens à le mettre en français. Mais vous irez dans d'autres traductions, c'est plutôt un grand nombre. Mais dépendamment des villes, d'accord? Des fois, ils arrivent dans une ville, vous allez avoir 15-20 personnes qui vont décider de croire en Jésus-Christ après avoir entendu l'Évangile. Je pensais à la jeunesse. Un groupe comme ça, 20 personnes. D'autres fois, ça va être des centaines de personnes. Ça va ressembler à une assistance comme ici. Quelques centaines de personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont placé leur foi. Ils ont accepté ce message-là, deviennent disciples de Christ. Et hop, ils repartent. Quelques semaines, quelques mois, ils repartent. Ils s'en vont ailleurs. Ils laissent les nouveaux disciples en arrière. Parce qu'ils s'en vont dans une autre ville. Et dans le passage de ce matin, nous voyons qu'ils vont revenir assez rapidement. Dans les mois qui suivent, ils vont revenir dans les villes où il y a des églises à établir, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont adhéré à la foi en Jésus-Christ. Et donc, ils vont aller revoir ces nouveaux chrétiens pour les encourager, pour organiser un peu les églises, afin que les chrétiens puissent grandir. Mais encore là, ils vont passer quelques semaines avec eux et ils repartent. Hop, c'est parti. Et là, ils repartent pour de bon. Je veux dire, dans le meilleur des cas, ils disent, écoute, je vous envoie une lettre, courrier, pas simple. Il n'y a pas de texto. Il n'y a pas de YouTube où Paul aurait pu enregistrer des enseignements pour pouvoir les fortifier. Comprenez, il n'y a pas de vidéoconférence pour dire, OK, comment ça va la gang, vous survivez, oui, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, écoutez, je vais vous conseiller, j'ai rencontré ces situations-là. Il n'y a rien de ça du tout. Arrivederci, il s'en va. Maintenant, on sait, lorsqu'on continue à lire les livres du Nouveau Testament qui vont éventuellement revenir, Paul va envoyer des émissaires qui vont venir, qui vont aider à fortifier l'Église, il va y avoir les lettres qui vont se mettre à circuler. D'accord, ces lettres-là vont être recopiées d'église en église. Tout le monde voulait avoir la lettre aux Éphésiens. Et donc, il va y avoir certaines ressources. Mais placez-vous au rythme de l'époque, au rythme de ce temps-là. Tu acceptes le Seigneur, tu es avec un groupe de chrétiens, Paul est là pour quelques semaines, puis après ça, il dit, je m'excuse les gars, soit qu'il doit partir parce qu'on lui lance des roches, ou soit qu'il part parce qu'il doit aller à la prochaine ville. Mais il va décoller. Ils vont revenir quelques temps après, constituer quelque chose, mais ils repartent encore. Alors, la question qui tue, est-ce que c'est suffisant pour que ces chrétiens grandissent dans leur foi et pour établir un vrai témoignage dans chacune de ces villes? Est-ce que c'est suffisant pour que les gens qui ont accepté Jésus grandissent dans leur foi et pour qu'on puisse établir un véritable témoignage dans ces villes? Ce matin, on va voir ensemble de jeunes croyants qui sont formés comme disciples. Ils sont placés très rapidement sous la responsabilité d'anciens, pas très anciens. Et ils sont confiés à la grâce de Dieu. Talent, voilà l'Église locale. Voilà la stratégie de Paul pour atteindre l'Empire romain. Et ça a vraiment été sa stratégie, parce que Paul va répéter cela partout. À quelques rares occasions, il va rester un an, deux ans dans une ville, un peu de temps pour enseigner, mais c'est très, 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 très rare. Vraiment, sa stratégie, c'est de se rendre dans une ville, annoncer l'Évangile, récolter quelques fruits, quelques personnes qui adhèrent à la foi, constituer ça avec quelques anciens qu'on va nommer là, et puis repartir. Est-ce que c'était une bonne stratégie? Est-ce que c'était efficace? Je ne sais pas, ça vous intéresse une église comme ça? Je peux vous en présenter, il y a des projets d'implantation à Montréal. On a l'équivalent à plusieurs projets. Si ça vous intéresse, on vous réfère, on cherche des missionnaires tout le temps. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Mais savez-vous quoi, en quelques décennies, le christianisme va remplir l'Empire romain? Tertullien, un des pères de l'Église, écrira en 197 dans son Apologeticum, « Nous sommes d'hier... » Il parle des chrétiens. Nous sommes d'hier et déjà nous avons rempli la terre, à savoir l'Empire romain, et tout ce qui est à vous. Les villes, les îles, les postes fortifiés, les municipalités, les bourgades, les camps eux-mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, le forum, nous ne vous avons laissé que les temples. Quelques décennies plus tard, 197, est-ce que c'était une bonne stratégie, oui ou non? Il semble que c'était une bonne stratégie. Et c'est pour ça que je veux prendre ce passage-là pour dire, revenons aux bases, revenons à l'essentiel. Encore une fois, j'ai vraiment rien contre tout ce qu'on met en place. Je trouve ça génial. Tout à l'heure, j'étais là à côté de Karine, puis Karine a ça sur son cœur depuis des années. Et je me rappelle la belle porte ouverte qu'on a eue dans le passé avec Jamais tout seul. J'ai hâte de voir ça aller de l'avant. Vous comprenez? C'est pas ça que je remets en question. si à quelque part, à travers le tourbillon de toutes ces choses que nous mettons en place, que nous mettons autour de nous, que nous rêvons de voir parce que nous regardons ce qui se fait ailleurs, qu'on en vienne à se dire, oui, mais c'est ça que ça prend. Si j'avais ça, je pourrais grandir. S'il y avait ça dans ma ville, on pourrait atteindre la ville avec l'Évangile. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Alors, je pense qu'on a besoin de revenir aux bases. Je résume ça en trois points. Encore une fois, voici les trois éléments que je désire faire ressortir ce matin. Premièrement, des chrétiens formés comme disciples. Deuxièmement, des hommes sages et remplis de l'Esprit de Dieu qui sont mis en place pour prendre soin de l'Église. Et la grâce de Dieu sera suffisante pour faire la différence. Et voyez-vous, vous avez tout cela ici. Sans vouloir dire qu'on est des super leaders, d'accord? Sans vouloir dire ça. Mais vous avez tout cela ici. Nous avons donc suffisamment pour grandir dans la foi et établir un témoignage puissant dans la ville. Premièrement, des chrétiens formés comme disciples. On a juste quelques versets, quatre versets, mais on a déjà des éléments importants sur comment est-ce que Paul voit c'est quoi être un disciple de Jésus-Christ. C'est quoi pour lui être un disciple? Déjà au verset 21, Luc nous dit, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. » Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Évangéliser et faire des disciples, ce sont deux choses différentes. C'est vrai? Évangéliser, c'est annoncer l'Évangile. Alors, ils arrivent dans une ville, ils annoncent l'Évangile, ils annoncent un Évangile clair, et un certain nombre d'individus parmi les foules qui sont là saisissent l'Évangile, non seulement avec leur intelligence, mais le saisissent avec leur cœur. Leur cœur est bouleversé par ce message d'amour de Dieu, cette grâce qui est offerte en Jésus-Christ, et leur cœur s'ouvre à l'Évangile. Ces gens-là décident de devenir disciples de Jésus-Christ. Voyez-vous, le disciple a entendu l'Évangile et a décidé de croire en Jésus-Christ et de le suivre comme enseignant. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Ici dans la salle ce matin, il y a des gens qui sont disciples de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont intéressés par le message de l'Évangile. T'es né dans une famille chrétienne, t'es pas né disciple de Jésus-Christ. Tu vas à l'église tous les dimanches parce que tes parents te traînent par les cheveux pour venir à l'église. T'es pas un disciple de Jésus-Christ automatiquement. Alors, il y a des gens ici qui entendent le message de l'Évangile, le trouvent intéressant, n'ont pas nécessairement encore adhéré à la foi en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des disciples de Christ. Parce qu'à un certain moment donné, lorsque tu deviens un disciple de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a une appropriation, ce message-là qui est, ouais, beau, cute, touchant, intéressant, peut-être pour apporter de l'espoir dans ma vie. À un certain moment donné, c'est plus ça. C'est ma vie. C'est mon espoir, c'est mon repos, c'est ma paix que je trouve en Jésus-Christ. C'est plus le message d'un autre, c'est plus la foi d'un autre, c'est ma foi à moi. Et cet évangile vient saisir mon cœur. Mon cœur devient passionné, ma vie prend une nouvelle orientation et je veux suivre. Je deviens un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Un disciple de Christ suit Jésus-Christ, cherche à comprendre ce qu'il enseigne, le voit comme un maître dans le sens d'un enseignant, veut comprendre ce qu'il enseigne, veut saisir ses enseignements, regarde comment il vit, devient un imitateur. C'est un groupie, mais un groupie consommé, vous voyez? Il aime tout ce qui sort de sa bouche, il aime son style de vie, il aime comment il marche. Et à ce moment-là, je suis en train de devenir un disciple de Jésus-Christ. Il y a vraiment une différence importante. Et donc, plusieurs d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas disciples de Christ. Vous êtes des sympathisants de la foi chrétienne. Ou, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes fait traîner pour arriver jusqu'ici. Bon, quelques années encore, vous allez être libérés de cette chaîne-là. Vous pourrez faire votre choix, suivre votre propre voie si vous le désirez. Mais déjà ici, on voit une distinction entre évangéliser et ce que c'est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus, qui aime ses enseignements, qui est attaché à Christ. Tu ne peux pas être disciple de Christ puis dire, « Ouais, moi je suis chrétien, fait que je vis selon certains principes. » tu vas à l'école, tu sais, tu peux être dans la police, tu suis des principes, tu es policier. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en amour avec Christ parce que Christ a saisi son cœur. Son cœur ne lui appartient plus. Je le suis. À quelque part, il m'a consumé. Et je deviens un disciple de Christ. En bas de ça, je suis un sympathisant. Je suis intéressé. Je trouve que c'est bien. Je trouve que ce sont des bons principes. Je vais écouter les messages, puis de temps en temps, je vais glaner là, quelques idées qui pourraient peut-être m'aider à régler 3-4 problèmes dans ma vie. Mais un disciple suit. Il n'est pas dans une conférence pour dire « Ouais, je suis allé à une bonne conférence l'autre soir, puis il y avait plein d'idées, puis gars, j'ai 2-3 idées que j'ai reprises. Je pense que c'est vraiment intéressant. Si je les appliquais dans ma vie aurait plus d'ordre, ça irait un petit peu mieux. » Oui, ils ont enseigné ça à l'église l'autre jour. Là, il y a un moniteur qui nous a enseigné ça. Dans un camp, j'ai entendu ça puis j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, je pense que je vais appliquer ça dans ma vie. Ce n'est pas un disciple, ça. C'est quelqu'un qui va à une conférence. Le disciple sort de là et dit « Dieu m'a parlé. Christ m'a dit ce qu'il attend de moi. » Bam, là, tu es un disciple. Tu veux suivre. Nuance entre les deux. Alors, nous annonçons l'Évangile constamment dans cette assemblée. Vous m'entendez régulièrement le faire à travers les prédications parce que nous ne prenons pas pour acquis que parce que vous êtes capable de résumer, d'articuler l'Évangile, vous êtes devenu un disciple de Jésus-Christ. Il faut encore que Christ saisisse votre cœur et que vous lui preniez la main pour marcher à sa suite, pour l'imiter. Un disciple de Christ parle de Christ. Voyez-vous, on n'est pas dans une secte obscure, dans une loge maçonnique où il faut arriver par la porte d'en arrière, puis on arrive tout avec un, j'ai juste le mot cloak, là, avec un chapeau sur la tête qui nous cache, puis moi je suis un disciple dans un mouvement quelconque. Personne ne le sait, parce que c'est secret. C'est une secte mystérieuse. On n'est pas là-dedans. C'est-à-dire, si on avait été défini, on serait la secte de la lumière. Voyez-vous? On enlève le chapeau, on sort puis on parle de Christ. On parle de notre Sauveur. Un disciple de Christ parle de lui. Man, c'est le meilleur enseignant que tu peux rencontrer dans ta vie. Il peut changer ta vie. C'est ton Sauveur. Il faut que je te parle de lui. La différence entre celui qui a entendu l'Évangile et celui qui est devenu un disciple, c'est son identification personnelle à Jésus-Christ. Vous êtes d'un côté ou vous êtes de l'autre. Et ma prière, c'est que vous soyez des disciples de Christ. Alors, de quel côté es-tu? Peut-être que dans ton cheminement, tu es juste là pour entendre, tu es juste là pour écouter. C'est correct, c'est très bien, tu es bienvenu. J'espère que vous ne percevez pas un mépris envers des gens qui viendraient ici simplement pour entendre. Vous êtes sympathisants de la foi. J'ai de l'admiration pour votre cheminement, d'accord? J'ai aucun mépris pour cela. Mais la nuance est vraiment importante. Maintenant, il nous est dit ici dans le passage qu'il les exhorte à persévérer dans la foi et à travers la souffrance. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui persévère dans la foi et à travers la souffrance. Et ça fait partie de la formation de disciples. Dans le fond, Paul s'en va là puis il leur dit, regardez, je vais vous aider à saisir c'est quoi un disciple de Christ. Vous persévérez constamment dans votre foi. Abandonnez pas. Ça va être difficile. Il va y avoir des moments difficiles. Et la souffrance, c'est une partie implicite de la foi chrétienne. Ça va faire partie de la game. Qu'est-ce que ça veut dire, persévérer dans la foi? Lorsqu'on lit ça, on lit vite le passage, puis là, on continue, persévère dans la foi et crure en Jésus. Ça veut dire quoi, persévérer dans la foi? Mais je viens de dire, c'est être un disciple de Jésus, c'est persévérer dans tous ses enseignements. Dans Matthieu 28, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Persévérez dans la foi. Persévérez dans la foi, c'est persévérer dans les enseignements de Jésus-Christ, dans tout ce que ça comprend. Ailleurs, il va être question dans le Nouveau Testament du dépôt, du conseil de Dieu. C'est toutes des expressions similaires. Persévérer dans la foi, c'est continuer à croire dans tout ce que Jésus a enseigné. C'est ça, persévérer dans la foi. Et donc, ça devient très, très large. Ça devient très vaste. Persévérer dans la foi, quand j'ai 15 ans, mes parents viennent de me donner un iPod Touch, je suis un gars. Ça a des implications, mon copain. Parce que là, avec cette bébelle-là, tu as la promiscuité à portée de main. Qu'est-ce que tu fais avec ton iPod Touch? Tu vas voir des demoiselles très peu vêtues, pour ne pas dire complètement dévêtues. Persévérer dans la foi, c'est faire usage des technologies qui sont à ma disposition en continuant à marcher comme un chrétien. C'est ça, persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est être avec mes amis, avec mes chums qui veulent sortir. Puis le party a de l'air plus le fun de l'autre côté parce qu'à quelque part, ça m'attire toute cette vie-là. J'ai le goût de sortir dans des bars, dans des discothèques. J'ai le goût d'aller, excusez-moi le terme, me défoncer. Persévérer dans la foi, c'est reconnaître que ce n'est pas mon appel. C'est reconnaître que mon appel, c'est trouver ma joie en Dieu, ma joie en Jésus-Christ. C'est ça, persévérer dans la foi. À la maison, les relations sont tendues, c'est difficile, il y a toutes sortes de tensions à l'intérieur de la maison. Puis j'ai le goût de me retirer de ces relations-là, juste de dire, regarde, ils s'arrangeront, moi je suis là, mais je ne suis pas là. C'est quoi persévérer dans la foi? C'est aimer, c'est honorer, c'est servir. Persévérer dans la foi, c'est, j'ai pas de travail, puis on m'offre un job, puis je vais être payé un petit peu en dessous de la table. Écoute, dès qu'on va le pouvoir, ça va tout devenir légal, cette affaire-là. Je sais que c'est pas selon tes principes, mais prends la job pareil, puis dès qu'on est capable, on te donne un poste, ça va aller. Persévérer dans la foi, c'est dire, c'est clair que ça vient pas de Dieu, cette job-là. C'est le diable qui me l'offre. Persévérer dans la foi, c'est renoncer à ça. C'est ça, persévérer dans la foi. Et vous savez, lorsqu'on pense aux gens qui persévèrent pas dans la foi, notre premier réflexe, c'est de se dire, bon, mais c'est des gens qui ne croient plus en Jésus. C'est vrai, ça arrive. Ça arrive. Cette semaine, une église que j'aime beaucoup, des amis à moi, une église aux États-Unis, j'apprends un des pasteurs sur l'équipe pastorale, doctorat en théologie, un enseignant très respecté, un homme charmant, crise dans sa foi à travers les derniers mois, renie complètement la foi en Jésus-Christ, un homme marié, des enfants, tout ça, impliqué dans l'église, se déclare athée. Se retire de la foi, ne croit plus, ça a plein d'implications pour l'orientation de sa vie, de sa foi, de sa famille. Ne croit plus en Jésus, ça arrive. Mais la majorité du temps, quand vous pensez à des gens autour de vous, cherchez des visages, des gens, des jeunes, des moins jeunes qui n'ont pas persévéré dans la foi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas persévéré dans la foi? Parce que monsieur n'était pas heureux dans sa vie de couple. Il ne se sentait pas comblé et il a décidé d'aller voir ailleurs. Ce qui impliquait qu'il devait abandonner la foi en Jésus. Ce n'est pas qu'il dit que Jésus n'est pas le sauveur. Ce n'est pas qu'il trouve que Jésus n'est pas bon. C'est pas ça, c'est juste que Dieu n'a pas donné ce qu'il voulait, comme il voulait. Fait que monsieur va voir ailleurs, et éventuellement il abandonne la foi. C'est ça, non? C'est mon ami qui était avec moi à la jeunesse, lorsque j'allais à la jeunesse, puis qui nous voyait nous marier les uns après les autres, puis on était là, puis on se mariait, puis lui, non. Puis à un certain moment donné, il nous rapporte ses Bibles, dépose ses Bibles sur la table. C'est fini, je me suis trouvé une blonde dans le monde, elle n'est pas chrétienne. Il n'a pas persévéré dans la foi. Voyez-vous, persévérer dans la foi ou ne pas le faire, c'est souvent dans des domaines beaucoup plus concrets de notre vie. Parce qu'il y a des zones d'amertume, il y a des zones d'insatisfaction qui grandissent dans notre cœur et on décide d'aller voir ailleurs. Il se passe des choses dans l'église, mon cœur devient amer, j'ai été offensé par des situations, puis ah, c'est trop compliqué cette affaire-là, fait que je me retire, puis je dis, je vais vivre ça par moi-même, cette affaire-là. Yeah, sure, ça a été conçu pour ça. Un monastère, sur ton pylône, là, tu sais, comme les moines dans le désert, ça n'a pas été fait pour ça. Vous êtes joints au corps de Christ, et Christ veut vous sanctifier. Nous autres, on s'applique à le faire. À travers les relations. Comprenez? Mais non, je me retire et éventuellement j'abandonne la foi. Persévérer dans la foi, c'est continuer à croire que Dieu est fidèle quand ce que je désire n'est pas livré maintenant. C'est continuer à me confier en Dieu pour aimer mes ennemis. C'est continuer à faire du bien à des gens qui me maltraitent. C'est apprendre à trouver mon bonheur en Dieu au lieu de le trouver dans des convoitises charnelles. C'est tout ça, persévérer dans la foi. Alors, lorsque Paul va les exhorter, il leur dit, la gang, ça sera pas facile, je vous le dis, il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes, il va y avoir des tribulations, ça sera pas simple. Persévérer dans la foi. Et by the way, la souffrance fait partie la game. Il va y avoir de la souffrance. Le terme qui est ici pour tribulation, lorsque je le lis dans la seconde, ça me porte à croire des persécutions. C'est beaucoup plus vaste que ça, d'accord? Il y a toutes sortes de souffrances qui viennent avec la vie chrétienne. Dans Romains 8, 17, on lit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Dans 2 Thessaloniciens 1, 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. À partir du moment où tu décides de devenir un disciple de Jésus-Christ, tu décides de marcher à contre-courant. Si tu as des doutes là-dessus, allume la télé, lis le journal, navigue sur Internet. Tu nages à contre-courant. Il y a des souffrances qui viennent avec ça. C'est une bataille. Et ralentir dans ma course, c'est commencer à suivre le courant. Alors voyez-vous, il y a des souffrances qui viennent avec ça. Parce que je ne vais pas prendre les ressources que les gens du monde vont prendre pour régler des situations, parce que j'apprends à me confier en Dieu, parce que je ne poursuis pas toutes les invitations que le monde présente devant moi, mais je cherche plutôt la sainteté, marcher avec Dieu. Parce que je décide d'aimer lorsque les gens ne m'aiment pas, me manquent de respect, me méprisent. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Et malheureusement, en Occident, l'Église a besoin d'apprendre à souffrir. Parce que nous ne savons pas souffrir. Nous vivons à une époque, dans un milieu en Occident, où nous faisons tout ce que nous pouvons pour atténuer la souffrance. On est prêt à t'aider à mourir plus vite si ça peut atténuer tes souffrances. Vous comprenez? C'est l'époque. On va te trouver une pilule, tu ne souffriras plus. Je te garantis, on n'a juste pas trouvé laquelle est la bonne, sa tablette. Et nous vivons à une époque de liberté où on peut afficher notre foi, bon, un petit peu de mépris, on n'a plus la même liberté dans les écoles. On voit qu'il y a des choses qui se ressentent, c'est vrai, mais quand même, je veux dire, tu sais, ton char n'a pas été brûlé cette semaine parce qu'il y avait une Bible sur le siège en arrière. Et donc, l'Église d'Occident ne sait pas souffrir. Nous ne savons pas souffrir. Souffrir fait partie de la vie, ça fait partie de la vie chrétienne encore plus. Et malgré le fait que la souffrance est souffrante, il y a des grâces et des joies à rencontrer dans la souffrance. La souffrance d'être rejeté, la souffrance de choix difficiles, des souffrances physiques parfois, la souffrance d'être méprisé, la souffrance de vivre avec des conséquences de vouloir marcher dans la sainteté. Il y a des grâces à rencontrer, à découvrir dans cette souffrance-là. Et Paul ici dit que, à quelque part, il faut apprendre à vivre à travers ces souffrances-là pour manifester que nous sommes des enfants de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Alors apprenons à souffrir, faisons ce choix-là. Chacun d'entre vous, dans votre contexte, il y a des situations différentes qui appellent cette souffrance-là. Donc Paul s'en va là, fait le tour, il s'en vient les voir. Il leur présente, c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui a décidé de suivre, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus. Il lui dit, c'est bien, tu as fait ce choix-là. Maintenant, la course commence. Tu as juste mis ton suit, man. Tu es à la ligne de départ et tu commences ta course. Persévère maintenant. Persévère. Il va y avoir des stades, tu vas avoir des crampes, ça va être douloureux. Ça fait partie de la game. S'il n'y en a pas, c'est parce que tu prends une marche. On est dans une course ici, là. Et donc, il leur dit, la souffrance fait partie de tout ça. Deuxièmement, je vais être plus bref sur les deux autres éléments. Des hommes sages, remplis de l'Esprit de Dieu, sont mis en place pour prendre soin de l'Église. C'est vraiment étrange parce qu'il les appelle des anciens. C'est des presbytéros qui sont là. C'est la bonne manière de le rendre. Ce sont des responsables. Mais évidemment, ça ne peut pas être des anciens très anciens. On s'entend? L'Église a quelques mois. Fait que parmi les nouveaux chrétiens, il me semble que Paul plus tard va dire, il ne faudrait pas que ce soit des nouveaux chrétiens, mais c'est des pas très vieux chrétiens en tout cas. D'accord? Parmi les gens qui se sont convertis, Paul, dans chaque ville, va en désigner quelques-uns. Je crois qu'il y a une collaboration, vous pourrez regarder les différentes traductions ici, sommaire, tout ça, il y a une collaboration de l'Église dans cette sélection-là, et c'est pour ça qu'on le fait comme ça ici, l'Église, l'Assemblée des membres doit participer au vote lorsqu'on vous recommande quelqu'un comme ancien. Mais ils vont choisir parmi ces gens-là quelques hommes qui, je vais le résumer comme ça, d'accord, sont des gens sages et remplis de l'Esprit, ce sont des gens pieux, ce sont des gens qui aiment Dieu. Probablement que le contexte favorisait que ça se fasse rapidement. Si vous êtes avec nous depuis le début du livre des Actes ou si vous êtes familier avec le livre des Actes, bien, vous savez qu'il y a plusieurs Juifs qui se convertissaient ou des sympathisants, des craignants Dieu qui étaient là. Des gens donc qui pouvaient déjà avoir une certaine instruction dans la parole de Dieu. Et si ces gens-là se convertissaient, devenaient chrétiens, bien, il y avait déjà une bonne base. D'autant plus qu'ils connaissaient toute la Bible de l'époque, n'est-ce pas? On avait juste l'Ancien Testament. Fait que tu n'avais pas à découvrir un nouveau livre. Tu avais plutôt à découvrir une grande révélation à l'intérieur du livre que tu étudies depuis des années. Il faut que tu découvres Christ maintenant dans ce livre-là. Et donc, probablement que ça favorisait que ça se fasse un petit peu plus rapidement. Mais ça n'empêche pas le fait que dans chacune des villes où ils vont aller, ils vont choisir des hommes pour leur sagesse, pour leur piété. Plus tard, dans les épîtres pastorales, 1 Timothée, Tite, il va y avoir des critères, ça va être plus élaboré, ça va être plus défini. Mais ils vont choisir ces hommes qui sont... Vous comprenez, je veux dire, quelques milles en avant des autres, là? Est-ce que vous mesurez un peu l'impact que ça peut avoir? Parce que si moi, j'avais été le conseiller de Paul, j'aurais dit, regarde, Paul, je te propose une autre stratégie, mon homme. Je veux dire, j'ai Paul puis j'ai Barnabas. J'ai deux kings, mon gars. C'est comme, eux autres, ils connaissent tout. Puis quand ils ne connaissent pas, Dieu leur donne des révélations. Fait que on va y arriver pareil de toute façon. Fait que j'ai ces deux gars-là. On va prendre une belle grosse ville comme Jérusalem ou Antioche, tout ça. Vous allez vous installer là pour les 25 prochaines années. On va envoyer des gens qui savent au moins comment articuler l'Évangile dans les différentes villes autour. Ils vont présenter l'Évangile. Il va y avoir des nouveaux croyants. Dès qu'on va voir des gens qui se démarquent un peu, on vous les envoie. Vous allez les former. 4-5 ans avec vous, ça va devenir vraiment les meilleurs. Ils vont connaître les Écritures, avoir toutes les réponses, toutes les kits. Et après ça, vous les envoyez implanter des églises solides, là, puis une bonne équipe ensemble. Moi, ça aurait été ça ma stratégie si on m'avait consulté. Mais ce n'était pas la stratégie de Dieu. Et donc, ça implique que ces gens-là qui sont choisis pour être anciens, bien, leur rôle, ça va être de prendre soin de l'Église. Ils deviennent des sous-bergers. Un petit peu plus loin, Paul va s'adresser aux anciens d'Éphèse dans le livre des Actes, et il va s'adresser à eux en disant, « Ayez soin de ceux que le Seigneur vous a confiés. » C'est énorme, ça. Vous comprenez, c'est un poids énorme. Quand les anciens, on s'en va dans la prière, on a des temps de prière réguliers, on s'en va dans la prière, puis on parle de l'Église que Christ nous a confiée. C'est énorme. Et Dieu, dans sa sagesse, l'a voulu ainsi. Et le rôle de ces hommes-là, c'est de veiller, c'est d'enseigner très clairement, aussi bien qu'ils le pouvaient à ce moment-là, enseigner la parole de Dieu. Et le rôle de l'Église, c'est de suivre, d'obéir à ses conducteurs. Dans Hébreux, où est-ce que j'ai mis ça? Dans Hébreux, on lit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence », c'est-à-dire du respect, « car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Voyez-vous, dans chaque ville, Paul et Barnabas retournent, choisissent quelques hommes qui vont travailler en collégialité. Ce n'est pas un pasteur qui est monsieur, je sais tout et qui dit tout. C'est un collège d'anciens qui vont travailler ensemble. Ces anciens-là sont mandatés de veiller sur l'Église, d'instruire l'Église, de donner une direction à l'Église. C'est leur responsabilité qui leur est donnée. C'est la responsabilité qui leur est donnée. La responsabilité des gens qui se convertissent, c'est d'adhérer à une Église, de se joindre à une assemblée pour être placé sous le chapeau d'une assemblée, sous la protection, si je peux dire, de l'Église, sous la responsabilité d'anciens qui veillent sur leur âme. Et ça, c'est la responsabilité de chaque nouveau croyant. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est m'intégrer dans l'Église, faire partie de cette Église-là, respecter les hommes qui ont été choisis pour diriger. Je l'ai dit souvent ici dans l'Église, je le répète encore, par la grâce de Dieu, les anciens dans cette assemblée sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs de Christ et des serviteurs de l'Église qui se dévouent corps et âme. Parlez-en à leur épouse. Ce sont des hommes qui sont humbles. Eh oui, ils sont orgueilleux, on est tous orgueilleux. Mais ils savent, eux autres, qu'ils sont orgueilleux. Ça permet d'aller les voir et de dire, il y a telle affaire, il me semble qu'il ne va pas dans ce que tu apportes, là. Ce sont des hommes humbles, ce sont des hommes pieux. Leur amour premier, c'est Jésus-Christ, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas d'allégeance ici à suivre un leader. On travaille en collège d'anciens ensemble. Et lorsque les frères, sur le conseil, disent « Yannick, tu erres », ils disent dans d'autres mots, ils disent « C'est génial, c'est une grâce pour moi comme pasteur d'enseignement. » Et donc, Paul va dans ces villes, établit ce collège d'anciens. Et l'élément le plus important dans le passage, je vais être très bref dessus, mais c'est là-dessus qu'on s'appuie. Le dernier élément, il les recommande au Seigneur, il les recommande à la grâce de Dieu. Quand moi j'ai lu ce passage-là, puis j'ai essayé de me replacer dans le contexte, j'avais encore le sentiment que c'est un peu fou toute cette histoire-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent placer leur foi en Jésus-Christ dans un contexte qui ne leur est pas favorable. Généralement, ceux qui les ont conduits à Jésus ont été chassés avec des roches derrière la tête. C'est comme, tu ne veux pas les laisser des nouveaux croyants tout seuls. Puis je lis tout ça puis je me dis, « Oh, Seigneur, c'est tellement fragile cette affaire-là. » Et je lisais, j'étudiais le passage, et le Seigneur me convainquait de mon péché d'incrédulité. Vous comprenez? Ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils les recommandèrent à la grâce de Dieu. Maintenant, lorsqu'on dit ça, tu sais, que Dieu te bénisse, des fois ça ressemble plus à... On s'appelle, je vais t'oublier, tu sais. Que Dieu te bénisse. Non, c'est plus que ça. C'est celui qui nous a sauvés. Et donc, lorsque Paul confiait ces noyaux-là avec ces quelques anciens qui avaient tout à apprendre, l'Église devait apprendre à vivre sa vie chrétienne, à marcher comme des disciples de Christ. Lorsqu'il les recommandait au Seigneur, il savait avec une absolue certitude que l'Église était en de meilleures mains qu'en leurs propres mains. L'Église était plus en sécurité entre les mains du Seigneur que simplement entre les mains de Paul et de Barnabas. Et si Paul et Barnabas ne faisaient pas trop de gaffe lorsqu'ils s'occupaient d'une Église, c'est juste par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pratiquement dans ta vie? Pratiquement, ce que ça veut dire, c'est que si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, tu es dans une Église où on enseigne la parole de Dieu, il y a un collège d'anciens qui est là pour veiller, pour donner une direction à l'Assemblée, et la grâce de Dieu est présente et elle est manifeste dans cette assemblée, je vous en assure. Tu as tout ce qui est nécessaire pour grandir dans ta foi et nous avons ici tout ce qui est nécessaire pour établir un vrai témoignage dans cette ville, pour atteindre cette ville pour Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que tu es toi dans ton cheminement. Si dernièrement tu dis, si j'avais ça, si l'Église était différente, s'il y avait quelqu'un qui venait rencontrer mon besoin, si j'avais toutes ces choses-là, je pourrais m'épanouir dans ma foi. Tu t'es probablement enfargé dans les millions de supports qui sont développés pour t'aider, c'est vrai, à grandir dans ta foi, mais qui ne sont pas la base. Peut-être que tu n'arrives pas à grandir dans ta foi parce que tu n'as pas la foi. Tu n'es pas chrétien. Tu es un sympathisant du christianisme. Tu ne peux pas grandir. Tu vas à des conférences. Le dimanche matin, je vais à des conférences. Il y a un conférencier. Des fois, il est drôle. Des fois, il est plate. Des fois, il m'endort. Je vais écouter des conférences tous les dimanches. Des fois, je ramasse 2-3 idées qui seraient bonnes pour moi. C'est ça que tu fais. C'est correct. Maintenant, un jour, par la grâce de Dieu, l'Évangile va venir, va te frapper en pleine face. Ton cœur va être saisi. Puis tu vas dire, ce matin, je ne suis pas allé à une conférence. Je suis allé adorer mon Sauveur. Et il m'a rencontré à travers la louange, à travers la communion avec les frères et sœurs, à travers la prédication. Mon Seigneur m'a parlé ce matin. Il m'a dit ce qu'il attend de moi cette semaine. Tu es maintenant un disciple de Jésus-Christ parce que tu veux marcher à sa suite. Et vous avez les anciens ici qui s'époumonnent avec le peu de sagesse que Dieu nous a donné, à faire du mieux qu'on peut pour paître l'Église, prendre soin de l'Église, donner des enseignements. Mais surtout, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est présent ici au milieu de nous. Celui qui est ressuscité d'entre les morts est présent ici au milieu de nous par son Esprit Saint. Et la grâce qui était là dans les Actes avec ces églises toutes petites qui ont bouleversé l'Empire romain, cette même grâce est présente ici. Parce que cette grâce nous est donnée par un Dieu qui ne change pas. Et il nous accorde cette même grâce pour que nous puissions grandir dans notre foi, établir un témoignage solide dans cette ville et le glorifier. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir pour ta parole. Tu m'as parlé encore cette semaine, Seigneur, de ta grâce qui est toute suffisante. Elle est suffisante pour ma croissance spirituelle. Elle est suffisante pour l'établissement de cette Église, pour tout ce qu'on a à faire ici, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour ceux au milieu de nous qui ne sont pas des disciples de Christ, qui ne persévèrent pas dans la foi semaine après semaine. Ils ne persévèrent pas parce qu'ils marchent un pied dans le monde, un pied avec toi. Ils se servent de ta parole pour en tirer des principes de sagesse, mais n'ont pas été bouleversés par toi. Saisis leur cœur, Seigneur. Que ceux qui viennent assister à des conférences le dimanche matin, Seigneur, deviennent des adorateurs et viennent adorer ici le dimanche matin et te rencontrer, mon Dieu. Et Seigneur, mets ta main sur les anciens. Mets ta main sur nous, Seigneur. Parce que nous ne sommes que quelques mille en avant des autres. Et parfois même derrière, Seigneur. Et on a besoin de ta grâce définitivement. Parce que c'est en toi que nous avons cru. Et suscite-en d'autres anciens ici, Seigneur. Et qu'on puisse implanter d'autres églises avec de petits collèges d'anciens et quelques frères et sœurs et que le témoignage puisse s'installer, Seigneur, dans toute cette simplicité. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen.